Bonjour tout le monde. Je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices, aux spectateurs, aux spectatrices de cette première séance du séminaire de l'année 2020-2021, donc consacré aux politiques migratoires. Le cours de cette année porte sur les politiques migratoires, les séances de séminaire aussi. Elles auront lieu à peu près tous les 15 jours. Donc nous invitons à chaque fois, c'est toujours le même principe, deux personnalités qui sont réputées par la qualité de leurs travaux. Et l'enregistrement sera diffusé donc quelques jours plus tard. C'est la règle ici au Collège de France. Alors j'ai le grand plaisir pour cette première séance d'accueillir Virginie Giraudon et Ettore Recchi. Virginie Giraudon, je vous conseille d'aller voir son CV sur la page de Sciences Po. C'est absolument impressionnant. C'est une trajectoire internationale extrêmement riche. Elle a enseigné dans de très nombreux endroits à travers le monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Elle a son PhD, elle a obtenu son PhD à Harvard. Et c'est très certainement la meilleure connaisseur actuel des politiques migratoires de façon générale et plus particulièrement des politiques migratoires européennes qui a été son grand sujet. Donc elle nous fait l'honneur aujourd'hui de nous présenter un peu la quintessence et en même temps actualisée de ce qu'elle sait des politiques migratoires européennes. Car au fond, y a-t-il une politique migratoire européenne? Quel sens ça a de dire que l'Europe a une politique migratoire? Quels sont les organes qui permettent, par leur action concrète, de dire qu'une telle politique existe? Voilà un peu le sujet et évidemment l'actualité avec la fermeture des frontières et la façon très désordonnée dont tous les pays européens agissent par rapport à la crise du Covid, eh bien, est un sujet pour elle. Et je sais qu'elle dirige en ce moment, elle a commencé à diriger un projet de recherche qui s'intéresse tout particulièrement à la prise de décision, à la manière dont les différents pays européens décident ou pas d'ouvrir, de refermer les frontières. Et comme par plaisir, eh bien, le Covid, avec ses bons et ses rebonds, est en train de donner à ce projet une extraordinaire actualité. Donc, à la suite de Virginie Giraudon, nous aurons le plaisir d'écouter Ettore Recchi, qui est un chercheur formé en Italie, comme son nom l'indique, mais qui est aujourd'hui professeur de sociologie à l'Institut d'études politiques, à Sciences Po, et qui est un spécialiste de la circulation, de la libre circulation européenne, un sujet qui est assez peu étudié, parce que la plupart du temps, quand on fait des statistiques migratoires, on écarte évidemment les Européens, parce que, notamment en France, ils ne sont pas tenus de demander un titre de séjour. Et du coup, ils échappent un peu à l'observation, et on ne peut les apprécier qu'à travers des estimations, dans les enquêtes emploi, dans des recensements, des opérations de ce genre. Et Ettore, qui est très attentif à l'aspect quantitatif des choses, va essayer de nous donner un aperçu des ordres de grandeur, en tout cas sur le phénomène de la circulation des ressortissants des États membres à travers l'Europe. Et vous verrez que c'est absolument essentiel, parce qu'en réalité, cette circulation, elle est très, très inégale. Il y a des pays très attractifs par rapport aux voisins européens. Il y en a d'autres qui le sont moins. Il se trouve que la France n'est pas spécialement attractive par rapport aux ressortissants européens, comparé à un pays comme l'Allemagne. Et puis on sait bien que le Brexit, c'est en grande partie le rejet de la libre circulation, beaucoup plus que celui d'une émigration exotique ou lointaine. Donc, deux intervenants qui vont travailler, qui travaillent sur des sujets à la fois d'actualité, mais évidemment que l'on ne peut apprécier qu'à travers une mise en perspective beaucoup plus lointaine. Je vais donc céder maintenant la parole à Virginie Giraudon.
Bonjour à tous les auditeurs de cette vidéo. Je suis très, très honorée non seulement de participer à ce séminaire, et je rougis des compliments qui m'ont été faits par François Héran en introduction. Je suis aussi ravie de partager cette séance avec Ettore Recchi, que je connais depuis longtemps, et je pense qu'on va être très complémentaires. Je pense qu'on a en commun d'être des sociologues de l'Union européenne, c'est-à-dire de s'intéresser à la façon dont des dispositions, des règles, des dispositions du traité ont vraiment des effets sur les populations. Donc Ettore Recchi va vous parler de comment les dispositions qui existent depuis le traité de Rome, et même avant d'ailleurs, depuis le traité de la CECA, sur la libre circulation des travailleurs puis des personnes, ont été ensuite saisis, j'ai envie de dire, par les individus. Et moi, je vais vous parler essentiellement donc, des politiques européennes qui s'occupent du contrôle des frontières extérieures et de la migration et de l'asile d'une façon très différente de la libre circulation, mais aussi avec cette idée de voir finalement quels sont les effets de ces politiques. Donc voilà, je suis contente de partager la séance avec ce collègue et ami. Alors moi, j'ai choisi d'intituler cette séance « Du sommet de Tampere au pacte sur la migration et l'asile, quel bilan pour la politique européenne ?» Je ne pense pas qu'en 40 minutes, je puisse vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis 20 ans, mais à la fois, je pense que c'est le moment de faire justement un bilan. Je vais expliquer ce que j'entends par bilan, une évaluation des politiques publiques. Et je pourrais remonter beaucoup plus loin, bien sûr, que le sommet de Tampere. Mais je pense que pour ce bilan, il est intéressant de poser un petit peu des bornes d'analyse historiques et géographiques à la fois. En effet, nous sommes donc à l'automne 2020 et on a fêté donc récemment les 20 ans d'un texte fondateur qui était un texte qui était en fait les conclusions du Conseil européen spécial, le premier Conseil européen qui a été consacré en octobre 1999 donc à Tampere qui était en Finlande, donc au moment de la présidence finlandaise de l'Union européenne, à l'époque où l'Union européenne comptait 15 membres. Et qui avait été rédigé par quelques hauts fonctionnaires très compétents en la matière du secrétariat du Conseil européen, c'est-à-dire un secrétariat qui aidait le Conseil des ministres européens, c'est-à-dire le représentant des États membres et de gouvernement. Et je vais finir par le pacte sur la migration et l'asile, qui, lui, a été présenté le 23 septembre 2020. Cette fois-ci, c'est un pacte qui est présenté par la Commission européenne, qui fait des centaines et des centaines de pages, absolument incompréhensibles, y compris pour les spécialistes, enfin, a priori pas pour moi, et surtout pas pour les juristes, mais qui est un texte d'une nature très différente, et ça nous permet d'avoir un petit peu des bornes géographiques, mais aussi, on voit, institutionnelles, c'est-à-dire que c'est la Commission, et maintenant on est dans une Europe à 27, sachant que tous les États membres n'ont pas d'ailleurs la même appartenance à ces politiques. Hein. Il reste par exemple des États de l'Union européenne qui ne sont pas pleinement membres de l'État Schengen, c'est-à-dire qui restent la Roumanie, la Bulgarie par exemple, les Chypre, leurs ressortissants ne peuvent pas aller venir facilement dans l'espace Schengen. Donc j'ai posé ces bornes qui sont pour nous donner des bornes historiques, mais qu'on retrouve aussi, j'ai envie de dire, dans les bornes géographiques. Il y a 20 ans, donc quand il y a eu le sommet de Tampere, on avait eu donc au départ, en 1985, et puis au moment de la signature du traité de Schengen en 1990, simplement 5 États de ce qui s'appelait la Communauté économique européenne, qui avait donc fait ce qu'ils appelaient un laboratoire, c'est-à-dire un espace de coopération complètement dehors de ce qu'on appelle maintenant l'Union européenne, mais de coopération en matière de migration, de gestion des frontières extérieures, et qui progressivement, hein, comme un club, ont accepté d'autres membres dans leur club. Et on arrive maintenant à cette carte très colorée. Nous avons donc en bleu les membres fondateurs, mais progressivement donc d'autres États membres ont rejoint à la fin des années 90. Les plus importants, j'ai envie de dire, vu ce qui s'est passé, c'est les pays du Sud, hein, Espagne, Italie, Grèce. Et on le voit malgré tout, hein, on avait la possibilité de ne pas participer à ces politiques européennes, puisqu'on voit en orange le Royaume-Uni, alors qui de toute façon avec le Brexit n'est plus concerné, mais l'Irlande hein, qui n'ont jamais souhaité participer. Mais on voit qu'on passe de Tampere au pacte sur la migration et l'asile aujourd'hui avec les pays du Nord, sauf la Norvège, mais les pays d'Europe centrale qui sont pleinement membres de Schengen. Donc ce n'est que 20 ans, ce qui pour un historien n'est rien. Mais je me permets de rappeler que, finalement, c'est déjà assez important d'expliquer pourquoi j'ai choisi ces deux textes. Je vais en fait essayer d'expliquer comment, en tant que chercheur en sciences sociales, et non pas membre d'un think tank ou payé par je ne sais quel appel d'offres pour la Commission européenne, comment éventuellement, nous, en tant que chercheurs en sciences sociales, on peut malgré tout avoir ce rôle d'évaluateur des politiques publiques et qu'est-ce que ça voudrait bien dire. Et puis, je vais vous donner deux exemples de choses qui me paraissent vraiment très importantes pour comprendre ces 20 ans, c'est-à-dire une analyse plutôt processuelle, c'est-à-dire de montrer comment, au fil du temps, un certain nombre de décisions en amènent d'autres et une sorte de mise en avant, de fuite en avant a lieu. Et à la fois, comme on le sait dans l'analyse des politiques publiques, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est ce qu'on appelle des fois la past dependence en anglais, la dépendance au sentier, ou un autre terme anglais qui est très mal traduit en français, donc je le dis d'abord en anglais, les policy feedbacks, hein, les boucles rétroactives. Alors, ça paraît complètement barbare comme terme. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une première décision, elle va entraîner un certain nombre d'effets, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont trouver que c'est très bien, d'autres qui vont essayer de s'y opposer, mais malgré tout, c'est plus difficile de revenir en arrière qu'il n'y paraît une fois que, j'ai envie de dire, les premières décisions sont prises. Donc, les décisions de tempérer ont un effet dans le temps et il est difficile de réformer, j'ai envie de dire, ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et puis, conclure par la situation actuelle. Alors, quand je dis actuelle, qu'on peut peut-être symboliquement dater de 2015 et de ce qu'on a appelé la crise européenne sur les migrations et l'asile, où là, on voit quand même en plus un nouveau phénomène, c'est que cette politique européenne est devenue vraiment un sujet discuté dans des sommets européens avec des chefs de gouvernement et d'État, et polarise énormément les opinions publiques au sein des États, des États membres, et voir comment finalement la Commission, dans ce pacte sur l'immigration et l'asile, essaie d'y répondre avec ce qu'elle a comme moyen, c'est-à-dire son jargon et ses solutions, ce que j'ai appelé bureaucratico-logistique, c'est pas très beau, mais en tout cas bureaucratique, mais qui essaie de répondre de façon logistique à une question politique. Alors, je reviens un instant sur les deux documents donc, qui bornent mon intervention, pour essayer de vous dire qu'est-ce que ça veut dire une politique européenne. Pourquoi on dit une politique européenne des migratoires ? Est-ce que ça a un sens d'ailleurs de le dire ? Au moment du sommet de Tampere, ce qui est acté par ce sommet, c'est qu'il y a eu le traité d'Amsterdam, signé en 1997, qui entre en vigueur en 1999. C'est pour ça que ce sommet a lieu à ce moment-là. Pour la première fois, effectivement, il y a un agenda clair, c'est-à-dire qu'il y a dans le traité l'idée que une partie de ce que nous, on appellerait de façon commune, dans les conversations, les politiques migratoires, d'asile, font partie des compétences européennes. C'est écrit dans le traité, mais il faut vraiment tout de suite, j'ai envie de dire, modérer cette idée que c'est pas dans le traité d'Amsterdam, ne dit pas maintenant les politiques migratoires sont une compétence de l'Union européenne. Au mieux une compétence partagée, mais en fait c'est extrêmement précis ce qui est écrit. C'est dans certains domaines en fait qu'il va y avoir non seulement une coopération entre États, mais une compétence législative et réglementaire de l'Union européenne. Et essentiellement les compétences sont plutôt des compétences qui concernent non pas tous les flux migratoires et tout ce qui se passe une fois qu'une personne étrangère arrive sur le sol européen, mais essentiellement les personnes qui entrent dans l'Union européenne, comment on y entre, est-ce qu'on a besoin d'un visa Schengen ou pas, si on demande l'asile, comment est-ce qu'il y a un minimum de ce qu'on appelait les standards minimums pour être reçu. Donc c'est absolument pas, par exemple, l'intégration ou l'insertion des étrangers qui arrivent sur le sol européen. Ce n'est absolument pas les critères de nationalité, comment est-ce qu'on devient allemand ou français. Donc c'est vraiment très restreint dès le départ, vraiment, finalement, à la gestion, ce qu'on appelle, ça s'appelle la gestion, ce que j'appelle le contrôle, des frontières extérieures. Donc ce n'est pas déjà, c'est-à-dire qu'on redéfinit au niveau européen ce qu'on appelle les politiques migratoires et d'asile. Malgré tout, ce qui se passe dans le traité d'Amsterdam, c'est qu'on prévoit à terme, et ça s'est passé sur plusieurs années, que les institutions européennes seront finalement incluses dans cette politique européenne, entre guillemets, de migration, d'asile et de contrôle des frontières extérieures. En gros, jusqu'au traité d'Amsterdam, c'est une coopération qu'on appelle intergouvernementale. C'est à un niveau, d'ailleurs, très concrètement, qui concerne plutôt des fonctionnaires, il y a bien sûr des réunions ministérielles, mais qui est essentiellement très opérationnelle, gérée par des policiers, des agents de la police des frontières. Et ce qu'on voit effectivement au traité d'Amsterdam, c'est qu'on prévoit, pour 2005, pareil, que la Commission aura le droit d'initiative, et non pas les États membres, que progressivement le Parlement n'aura pas juste un rôle consultatif, mais sera bien co-législateur, c'est-à-dire qu'il devra se mettre d'accord avec le Conseil des ministres, c'est-à-dire que les États membres, sur ce qu'on appelle les directives ou les règlements, c'est-à-dire les lois européennes. Et la Cour européenne pourra, elle aussi, enfin avoir son mot à dire de façon un peu moins restrictive qu'elle l'avait été. Donc pourquoi on parle de politique européenne ? Il y a deux dimensions, c'est-à-dire la dimension de la compétence sur ces questions-là, et puis surtout l'idée d'inclure quand même l'ensemble des institutions européennes, puisqu'avant, vraiment, c'était uniquement les ministères de l'Intérieur qui étaient impliqués, éventuellement les ministères des Affaires étrangères, et c'était surtout le Conseil des ministres, hein, c'est-à-dire la seule instance uniquement qui représente les États membres qui étaient impliqués. Donc c'est pour ça que c'est un texte important. Ceci dit aussi à rappeler sur le sommet de Tampere, c'est que déjà en 1999, la philosophie, alors des fois on parle de paradigme des politiques publiques, mais en tout cas la philosophie du texte, elle est assez claire. C'est un texte très court, qui est un texte vraiment de feuille de route, hein, qui n'est pas pour ce qu'on va faire dans l'année qui vient. Hein, c'est vraiment censé être ce qui va un peu vraiment marquer les 10 ou 20 ans à venir. Et d'ailleurs, on en parle encore aujourd'hui. Il y a une idée vraiment assez simple qui existe depuis déjà 10-15 ans dans la coopération, mais qui est maintenant officielle dans ses conclusions du sommet Tampere, c'est qu'il s'agit d'empêcher les personnes dont on ne veut pas, hein, alors moi je les appelle les indésirables, hein, de trier un peu les migrants qu'on considère, donc les personnes étrangères qu'on considère tout à fait désirables. On veut absolument qu'il y ait une libre circulation des hommes d'affaires, des touristes, des étudiants éventuellement étrangers. Donc il y ait de moins en moins de contrôle aux frontières pour une certaine catégorie de personnes. Et par contre, qu'on puisse, donc quand je parle de tri, hein, par contre qu'on soit beaucoup plus strict sur les indésirables en les empêchant d'arriver sur le sol européen. C'est-à-dire en établissant tout un système d'écluses qui font qu'en amont, hein, on va leur demander d'obtenir un visa, d'être contrôlé à l'aéroport. Il va y avoir toute une... éventuellement, on va, et ce qui va devenir très important, on va demander la coopération justement des pays d'origine ou des pays de transit où ils peuvent passer pour les empêcher d'arriver sur le sol européen. Alors pourquoi ? C'est une question aussi européenne. C'est que depuis l'après-guerre, comme vous le savez, il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une convention de sauvegarde des libertés fondamentales. Et puis, il y a dans tous les pays des cours administratives, des cours constitutionnelles qui garantissent un certain nombre de droits qui ne sont pas seulement le droit des nationaux ou des citoyens, mais bien des droits de l'homme ou de la personne, et qui protégeaient largement dans les années 80 et 90 les étrangers, y compris en situation irrégulière, y compris qui entraient sans papier, j'ai envie de dire, sur le sol de l'Union européenne. Et c'est vraiment l'idée de dire, une fois que les gens sont en Europe, dans un pays européen, c'est très difficile qu'ils n'obtiennent pas un certain nombre de droits. Et c'est encore plus difficile qu'ils soient renvoyés chez eux parce que leur pays d'origine ou les pays par lesquels ils ont transité ne leur donnent pas de laissez-passer consulaires et ne veulent pas les reprendre. Donc c'était vraiment cette obsession, c'est d'empêcher l'arrivée parce qu'une fois que les gens arrivent, bon, ils vont devenir sans papier, certes, mais ça sera difficile de les renvoyer. Donc cette idée-là, elle est déjà, c'est vraiment l'axe principal du sommet de Tampere, avec de façon aussi très affirmée la coopération avec les pays tiers. C'est-à-dire l'idée que la politique migratoire, ce n'est pas justement seulement les ministères de l'Intérieur et la police, ce qu'on appelle nous la police de l'air et des frontières, mais aussi essayer de convaincre les pays qui sont en amont de cette frontière, les pays par exemple, ce qu'on appelle le voisinage européen, qui à l'époque, puisqu'on est en 99, sont aussi les pays de l'Est, les Balkans, évidemment les pays du sud de la Méditerranée, de coopérer pour empêcher l'arrivée des migrants, mais aussi tout simplement pour accepter leur réadmission s'ils sont en situation régulière. Donc on a à la fois à tempérer l'idée de se préparer au fait que les institutions européennes vont être partie prenante de cette politique, mais un cadre très clair qui est empêcher l'arrivée sur le sol européen, et en particulier par la coopération avec les pays tiers. C'est ça, en fait, c'est un peu ce texte dont je me sers pour faire le bilan, en fait, en quelque sorte, de cette politique. Ce qui me mène à mon deuxième point, qui est comment est-ce qu'on peut vraiment évaluer une politique publique. Si on est chercheur, je pense qu'on n'utiliserait pas ce genre de terme, c'est-à-dire que nous, on étudie effectivement ce qui s'est passé, mais notre rôle n'est pas d'écrire des policy briefs, comme on dit, de 4 pages, où on va donner, non seulement faire un diagnostic, mais ensuite faire des recommandations aux gouvernants. Ça ne nous empêche pas de les évaluer. Alors, on peut le faire d'une première façon en disant on va justement partir des conclusions du sommet de Tampere, en disant voilà les objectifs. Est-ce que ces objectifs ont été remplis ? C'est-à-dire de vraiment prendre au mot ce qui est dans ce texte, sans se dire est-ce que c'est bien d'un point de vue normatif, d'un point de vue moral, éthique, juridique, mais de dire vous avez annoncé ces objectifs. Finalement, est-ce que 20 ans plus tard, à la fois les mesures que vous avez prises, la façon dont vous les avez prises, et les résultats, qui seraient donc le fait qu'il y ait moins de personnes qui arrivent, par exemple, en Europe de façon irrégulière, s'est produit. Après, il y a effectivement cette deuxième façon de le faire, qui serait de dire non, les critères en prennent en compte, justement, on ne les prend pas juste au mot. C'est ce que font énormément les juristes, c'est de dire il y a quand même aussi, justement, la Convention européenne des droits de l'homme, des textes internationaux plus larges. Il y a aussi il y a un certain nombre de valeurs européennes qui sont inscrites à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Est-ce que ces critères sont respectés ? Et c'est aussi, pour vous donner un exemple de la façon dont la géographie est mobilisée à cet effet. Vous avez la carte officielle de l'espace Schengen que je vous ai montrée. Et donc, très très vite, il y a eu des contre-cartes de cet espace Schengen. En disant, voilà cette belle carte de l'espace Schengen, on a toujours en rouge, la ligne rouge, la délimitation de cet espace, en disant, en fait, il y a des centres de rétention dans l'Europe, il y a des points de fixation dans les pays du Maghreb ou dans les pays des Balkans, il y a des opérations militaires en mer de Frontex. Et donc, si c'est ça l'Europe des droits de l'homme et de la Convention européenne des droits de l'homme, on est quand même dans une... Et puis surtout, si c'est ça l'idée... une carte vide, elle est très jolie, effectivement. On se dit, vous ne pouvez pas rentrer dans l'espace Schengen sans visa. Mais la réalité est beaucoup plus... complexe, y compris en ce qui concerne bien sûr les droits de l'homme des personnes concernées, mais aussi l'idée que ce système est efficace, efficient et porte ses fruits. Mais je vais essayer de rester, en tout cas pour pour les minutes qui me restent, sur l'idée que, après tout, gardons l'idée qu'on va prendre Tampere comme cette bande historique en disant est-ce que finalement ce qui a été annoncé à Tampere s'est bien réalisé et où on est maintenant. Alors, je fais juste effectivement un caveat, c'est que, comme je l'ai précisé, l'intégration en matière de politique migratoire, elle est très incomplète. Elle ne concerne pas, comme j'ai dit, énormément de flux migratoires, par exemple. Si on considère les politiques de réunification familiale, c'est bien encore les États qui décident des critères. Il y a une directive européenne en la matière, mais qui vraiment, elle donne des fourchettes, on va dire, elle donne des estimations, elle est formulée dans un vocabulaire où on utilise des expressions comme « pourrait faire » ou « ce serait souhaitable que ». Même la directive dite « retour » qui concerne donc les reconduites à la frontière, elle met des bornes, on va dire, minimum et des fois maximum, qui fait qu'un pays comme la France, par exemple, s'est retrouvé dans une situation où la directive européenne disait qu'on pouvait garder les gens en rétention administrative plus longtemps que ce n'était le cas en France. Mais c'était une possibilité, ils n'étaient pas obligés de le faire. Et inversement, il y a des pays où les gens pouvaient être en rétention administrative avant d'être expulsés indéfiniment. Et là, la directive européenne met une borne en l'expliquant, il faut quand même que vous mettiez une limite à la durée des rétentions. Mais ce sont des textes très flous qui font que vraiment, dans la vie courante des personnes qui arrivent en France dans le cadre du regroupement familial, les politiques européennes les concernent assez peu. Alors, pour illustrer mon propos, je vais prendre deux exemples pour essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis Tampere et pourquoi on est arrivé à ce que je ne peux appeler malheureusement qu'un bilan absolument catastrophique. Mais quand on dit bilan catastrophique, encore faut-il essayer de le comprendre. Alors, j'ai dit que j'allais faire une analyse processuelle, c'est un petit peu pompeux, mais j'ai plutôt essayé d'expliquer comment une décision en amène à une autre, qui en amène à une autre. Et à aucun moment, justement, il y a d'évaluation des politiques publiques. À aucun moment, on se dit « Ah, il y a des effets attendus ou inattendus, mais en tout cas des externalités négatives, comme disent les économistes, ou des effets indésirables. » Et on se pose, on réfléchit, on réoriente cette politique. Donc ce que j'appelle un processus, c'est plutôt, je préférerais le dire, une fuite en avant. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de mécanisme réel où on s'est dit les décisions qu'on a prises à temps zéro dans le traité de Schengen ont des effets que l'on ne souhaite pas. Donc, on doit revenir en arrière et se dire est-ce qu'il y a une autre façon de faire ? Donc, je vous ai mis des photos et j'ai mis exprès, je n'ai pas mis toutes les sources, mais j'espère qu'elles permettront d'illustrer mon propos. J'ai parlé déjà de l'idée donc qu'il fallait que dans l'esprit des conclusions du sommet de Tampere 99, il y a bien l'idée donc d'empêcher l'arrivée sur le sol européen d'un certain nombre de personnes. Pour ce faire, il y a un dispositif qui est très important, qui est le visa Schengen, pour les séjours de 3 mois, pour toutes sortes de raisons, tourisme, visite familiale, entre autres. Et ça, c'est une vraie politique européenne, c'est-à-dire qu'il y a qui se construit au fil du temps, mais qui va être l'idée qu'un Marocain à Casablanca, s'il va au consulat belge, français, néerlandais, il aura à peu près on va lui demander les mêmes papiers, il va subir à peu près la même procédure pour voir si il veut vraiment faire du tourisme à Paris, si cette grand-mère veut vraiment juste visiter ses petits-enfants, ou s'ils ne sont pas, selon la terminologie du code Schengen et du manuel Schengen, un risque migratoire. Ça s'est mis en place très, très, très lentement, puisqu'on parle quand même de domaines qui n'étaient absolument pas l'objet de coopération entre États. Mais on arrive effectivement, au fil du temps et assez vite, en tout cas, d'abord à une chute évidemment impressionnant des visas octroyés. et à une certaine harmonisation entre consulats, de façon intéressante, parce que maintenant, de nombreux États membres ont délégué à des compagnies privées, hein, deux grandes compagnies privées en particulier, l'accueil dans les consulats. C'était deux grandes compagnies privées spécialistes des voyages, hein, des agences de voyage internationales, et qui font maintenant le sale boulot, entre guillemets, d'accueillir, de recueillir les documents et donc d'annoncer si les personnes ont eu un visa. Ensuite, les compagnies aériennes, qui sont elles aussi bien sûr des acteurs privés, ont été obligées, sous peine de sanctions, de vérifier si les personnes avaient bien non seulement un passeport en règle et pas falsifié, mais aussi un visa en règle, en bonne et due forme. Et pareil, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Elles ont rechigné au début en disant que ce n'était pas des sheriff's deputies en anglais, hein, c'était pas des auxiliaires de police, on dirait en français, hein, c'était pas leur et qu'au contraire elles voulaient avoir des bons rapports avec les populations d'un point de vue commercial, elles ne voulaient pas apparaître comme juste participant à une politique restrictive des migrations, mais au fil du temps, dans une logique un peu managériale, on leur a dit, ben si il y a très peu de personnes qui prennent vos avions, qui n'ont pas les papiers en règle, vous n'aurez pas à payer les sanctions. Enfin, on est entré dans une logique où on avait un peu des cibles à atteindre pour les compagnies aériennes. Et puis en plus, où les compagnies aériennes, au fil du temps, ont investi énormément dans la sécurité, contre le terrorisme, mais aussi dans certains cas sur les questions migratoires. On a aussi maintenant donc toutes les compagnies aériennes qui faisaient partie de ce dispositif. Donc, les consulats, plus les compagnies aériennes, d'un moindre point de vue maritime, d'une certaine manière, c'est efficace. Si on a le système Schengen, on va dire, de ce point de vue-là, est assez efficace. Il y a bien un travail qui est fait dans les consulats, et il y a bien des personnes qui ne peuvent pas monter dans les avions parce qu'ils n'ont pas les papiers en règle. Et c'est là où on arrive à la deuxième partie, qui est que, ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Si les personnes ne peuvent plus monter dans un avion, mettons à Istanbul, pour arriver à Roissy, parce qu'ils sont kurdes et ils veulent arriver à Roissy et demander l'asile en France, là, ils ne peuvent pas monter dans l'avion, parce que la compagnie aérienne va coopérer avec le gouvernement turc, et ce n'est pas en Turquie qu'ils auront réussi à obtenir un visa pour aller en France, précisément parce qu'ils sont kurdes. À ce moment-là, leur seule solution, ça va être d'emprunter ce qu'on appelle maintenant les voies irrégulières, les routes de la migration irrégulière, et donc de ce qu'on appelle aussi dans le jargon européen, ce sont des entrées régulières. Pourquoi irrégulières ? Parce qu'ils n'ont pas les documents de voyage nécessaires. Tempéré, c'est donc en 99. Dès l'année 2000, on commence à voir en fait les premiers, très très vite en fait, hein, les premières personnes qui essayent de prendre des bateaux pour entrer dans l'Union européenne, justement. Non, pas en avion, mais en prenant ces bateaux pour aller d'abord sur les îles Canaries, voire par le détroit de Gibraltar. Après, comme on le sait, plus tard, il y aura des chemins entre la Libye ou la Tunisie et l'île de Lampedusa en Italie, au sud de l'Italie. Des voies qu'on appelle maintenant, enfin, que vous connaissez bien si vous lisez l'actualité, entre la Turquie et la Grèce et les pays des Balkans. Mais on le voit dès le départ, c'est une espèce de conséquence directe. C'est ce que j'appelle un effet plus ou moins attendu, mais en tout cas qu'on pouvait prévoir. À partir du moment où on ne peut plus entrer de façon légale et après, par exemple, demander l'asile ou essayer de se débrouiller, on prend ces routes assez, assez dangereuses. La réponse de l'Union européenne, à ce moment-là, est de créer l'agence Frontex, qui est une agence assez intéressante parce qu'elle est... Il y a beaucoup d'agences où on en parle tout le temps. Avec le Covid, par exemple, on parle des ARS, etc., mais c'est-à-dire que ce n'est pas une direction générale de la Commission européenne, mais elle dépend quand même malgré tout de l'exécutif. Et elle coordonne des actions militaires essentiellement aux frontières extérieures. Donc la photo que vous voyez sur la droite de votre écran, hein, c'est une des premières opérations Frontex. En 2004, l'opération ERA 2, donc c'est la deuxième opération de Frontex, qui va mobiliser vaisseaux de guerre, des hélicoptères, des avions, des hélicoptères en marge de la Mauritanie pour empêcher les personnes qui souhaitent quitter la Mauritanie pour aller essentiellement à ce moment-là encore vers l'Espagne via les îles Canaries. Donc la réponse est de dire bon, notre système ne marche pas, donc malheureusement, puisque ce système de contrôle à distance dans les consulats n'est pas parfait, on va aussi militariser la frontière, comme c'est fait partout dans le monde, y compris bien sûr dans des pays qu'on connaît bien, comme les États-Unis. Donc on rajoute dans ce système d'écluses une nouvelle couche qui va être donc des opérations en mer. Ça ne marche pas complètement. Donc là, il y a eu des phénomènes assez intéressants qui va être plutôt de contourner à ce moment-là la question, de contourner le droit européen et le droit international en particulier. Quand il s'agit, c'est l'image qui est en bas de l'écran, quand on va se retrouver dans la situation qui est maintenant devenue extrêmement commune, hein, puis avec des dizaines de milliers de morts, comme vous le savez, en Méditerranée, quand on va avoir, donc ça c'est une photo qui date de 2007, de l'été 2007, où, en l'occurrence, des personnes qui quittaient le continent africain ont vu leur bateau chavirer et se sont accrochés sur un filet d'un thonier maltais. Ils sont restés 3 jours en attendant que divers pays européens, Malte en l'occurrence, l'Italie, l'Espagne et la France d'ailleurs, discutent pour savoir qui devait les prendre. Et là, ce qui était intéressant, c'est de dire, en fait, c'est plus du tout du droit européen, ni du droit d'asile, ni du droit international. C'est du droit international, mais en l'occurrence, ce qui est en jeu, c'est le secours en mer. Donc c'est le droit international maritime. Ça n'a rien à voir avec la migration. Donc il y a eu aussi des jeux de loi, des façons d'essayer de contourner un petit peu le problème. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, 20 ans plus tard, on a eu énormément d'arrivées par des routes de toute façon irrégulières par définition, hein, puisqu'il faut avoir un passeport et un visa en règle. Si on arrive autrement, c'est une arrivée irrégulière, mais qui passe par des routes maritimes très concentrées dans quelques endroits du sud de l'Europe. Et à aucun moment, il y a un retour en arrière. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où on se dit « Ah ben, cette politique des visas, ou comment est-ce qu'on fait pour aménager en quelque sorte cette situation ?» Parce qu'il y a bien un avant. C'est-à-dire dans les années 80, où il n'y avait pas de visa Schengen, il y avait aussi des migrations. C'est ce qu'on appelle un liste contrefactuel et non pas processuel. Bon, est-ce que ça ne serait pas mieux sans ce système de visa qui fait que la plupart en fait, des pays en plus sont sur la liste des visas Schengen. Donc on a cet engrenage, et pour le comprendre, il faut toujours se poser la question de finalement, est-ce qu'il y a suffisamment d'acteurs, pas seulement étatiques, hein, pas seulement des fonctionnaires européens, pas seulement des fonctionnaires des ministères de l'Intérieur des différents États membres, mais aussi des sociétés de sécurité, des agences, par exemple, de consultance, des think tanks, toutes sortes de personnes qui, finalement, sont très contentes de participer à ce nouveau champ qui sont donc le contrôle des migrations, alors qu'ils ont déjà toute une expertise sur la sécurité, sur la technologie, et qui, finalement, font que cette politique migratoire qui est en embryon devient vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont pour qu'on continue dans cette voie-là. Et la deuxième question, c'est alors ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, on le sait, on le voit, j'ai envie de dire, tous les jours, et surtout depuis 2015, il y a des associations de défense des droits des migrants, il y a des collectifs, il y a toutes sortes d'initiatives, il y a des villes aussi qui se mobilisent, bien sûr, en Europe, mais qui, en fait, au niveau européen, très très peu de poids. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les discussions dans les comités européens du Conseil des ministres ou du ministère de l'Intérieur ne sont pas perméables en réalité à ces mouvements citoyens ou aux réseaux de villes européens sur ces questions. Ce n'est pas le lobby du pétrole sur les, quand il s'agit du marché intérieur ou du lobby de la FNSEA sur la politique agricole commune. On n'a pas l'équivalent d'un lobby qui... On a un lobby effectivement assez fort maintenant de grandes entreprises en France comme Thales, Safran, qui sont très impliquées et qui ont reçu... Pour eux, c'est rien. Pour nous, c'est beaucoup. Mais de très nombreux millions de l'Union européenne pour des systèmes de sécurité aux frontières. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un équivalent, qu'il y a un contre-pouvoir important. Et donc, ça continue à se développer. Et à chaque fois qu'on voit qu'il y a quand même des personnes qui arrivent sur le sol européen dont on ne veut pas, on rajoute évidemment une nouvelle situation. La dernière situation, c'est de construire des camps, alors on va dire des centres d'enregistrement entourés de campements dans les îles au sud de l'Europe. Et ça, c'est le deuxième cas dont je voulais vous parler parce que c'est un cas européen. On peut dire que c'est en Grèce, certes, mais c'est très représentatif de ce que justement de c'est vraiment tous les acteurs des politiques européennes sont impliqués dans ce qui se passe à Lesbos. C'est pas un problème grec. Les autorités grecques sont présentes, mais en tout cas, depuis 2015, l'île de Lesbos est considérée comme un hotspot européen. Donc c'est un centre d'enregistrement où ce sont les agences européennes qui enregistrent les personnes qui arrivent. L'agence Frontex, dont j'ai déjà parlé, le Bureau européen d'appui pour l'asile, il y a la présence d'Europol aussi. Si vous suivez l'actualité, par exemple, on sait que la personne qui a été responsable dans les attentats à Nice était passée par Lampedusa. Ben, il faut savoir qu'il y a aussi des fois des personnes d'Europol dans ces centres pour voir si les personnes sont déjà recherchées, mais c'est plutôt des personnes qui étaient déjà évidemment connues des services européens. Donc c'est bien des agences européennes qui sont impliquées sur place. Donc à Lesbos, Lesbos devient officiellement un hotspot en 2015, puisque c'est l'année où, comme vous le savez, sans revenir sur les chiffres, mais on considère que plus d'un million de Syriens sont arrivés, 800 000, 1 million de Syriens sont arrivés en Europe cette année-là, avec d'autres populations qui continuaient d'arriver, évidemment. Des Afghans, des Soudanais, des Irakiens, des Iraniens, des Bangladais, des Ivoiriens, etc. Donc le 15 octobre 2015 est inauguré le hotspot. Et alors sur la photo de gauche, vous avez trois acteurs. Il y a le commissaire européen qui se trouve être grec à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y a encore un vice-président de la Commission européenne qui est grec qui s'occupe de ces questions. Il y a aussi un représentant de la présidence européenne, c'est-à-dire donc du Conseil européen qui est luxembourgeois. Et il y a quand même un ministre grec. Mais c'est très clair que c'est vraiment, et vous voyez bien, il y a les petites étoiles, on est bien, c'est bien l'Union européenne qui est très fière d'inaugurer ce hotspot. Et alors, pour vous donner une idée, donc en même temps, c'est une photo qui a été prise par des acteurs sur place. Donc en fait, le hotspot, ce sont des préfabriqués qu'on voit derrière les barbelés, où les ordinateurs ne sont même pas arrivés le 15 octobre. Alors qu'à l'époque, pour que tout se passe bien, il faudrait examiner 200 demandes d'asile par jour. Là, ils n'ont pas encore les ordinateurs, donc les gens sont en fait en dehors, et puis tout simplement arrivent. À l'époque, on est à 200, 300 arrivées par jour de personnes. Je parlais de 200 personnes, 200 des examinations de demandes d'asile. Et là, je veux dire, c'est une politique européenne. C'est la dernière écluse, j'ai envie de dire. On va les garder dans ce camp à Lesbos, puisqu'on n'a pas réussi à... ni dans le consulat, ni les empêcher à l'aéroport, ni de les empêcher d'arriver en mer. On va essayer de les garder sur Lesbos. La situation, comme vous le savez, est devenue absolument intenable, relativement vite, jusqu'à la situation en 2020. Mais il y a un récit européen pour comprendre pourquoi. Alors, très vite, les personnes restent coincées à Lesbos. En particulier parce que l'Union européenne pense avoir trouvé la solution miracle au problème de Lesbos. En mars 2016, le hotspot est inauguré en octobre 2015, en mars 2016, entre en vigueur une lettre, en fait, j'ai dit accord Union européenne-Turquie, il faudrait dire, c'est en fait une déclaration commune entre l'Union européenne et la Turquie, donc si des juristes me regardent, je m'en excuse, mais j'ai écrit plus brièvement accord entre l'Union européenne et la Turquie. L'Union européenne, suite à des tractations entre Angela Merkel et Mark Rutte et le Premier ministre turc de l'époque, se mettent d'accord pour que la Turquie retienne, empêche de partir vers la Grèce les personnes sur son sol. La Turquie est le plus grand pays d'accueil des réfugiés dans le monde. On est à 4 millions maintenant. On était déjà à l'époque, évidemment, à plusieurs millions. Donc, joue le rôle de garde-frontière de l'Union européenne en l'échange de 3 plus 3 milliards qui seraient donnés, donc 3 milliards, on va dire, avant travaux, hein, et 3 milliards ensuite, et puis d'autres promesses qui ont été faites à la Turquie. Et le récit européen qui est dans tous les documents de la Commission, de Frontex, des conseils, est de dire cet accord est formidable puisque après un pic spectaculaire qui est tout en bleu en 2015, il y a une chute spectaculaire des arrivées en Grèce en 2016, 2017, 2018. Il y aurait beaucoup à dire sur ce graphique. Je n'ai pas le temps d'expliquer, puisqu'il y a aussi d'autres routes, évidemment, d'autres façons d'arriver en Europe. Mais pendant tout ce temps-là, ce récit devient... j'en parle parce que, évidemment, François Héran est un grand spécialiste de démographie, mais la façon dont on l'utilise et qu'on a un peu statifié ce schéma de... est vraiment intéressant dans les documents de politique publique européens. Alors, effectivement, il y a beaucoup moins d'arrivées, mais les personnes qui sont à Lesbos ne sont dans un état d'attente, un peu perdu dans le temps et dans l'espace. Ils sont très peu de gens en sortent, puisque dans cet accord, il y a dit que les Syriens, et d'autres nationalités d'ailleurs, en fait, pourraient être renvoyés en Turquie. Donc on commence à privilégier l'examen de certaines personnes contre d'autres. Ça crée toutes sortes de tensions, donc des bagarres, des tensions entre diverses nationalités. Et la situation, d'un point de vue humanitaire, est devenue absolument catastrophique assez rapidement, en réalité, jusqu'à la situation qu'on a connue donc, il y a 2 mois, en fait, hein, au début septembre, avec un incendie spectaculaire dans le camp de Moria, qui était le camp principal. On parle de dizaines de milliers de personnes qui ont été... On a eu jusqu'à 50 000 personnes qui étaient dans les îles grecques et presque 20 000 sur l'île de Lesbos. Si ce n'est pas un échec de politique publique, même d'après les critères initials du sommet de Tampere, je pense que c'est difficile de faire autrement, mais j'ai essayé de vous montrer quelle espèce de raisonnement peut malgré tout faire qu'on continue à s'entêter dans le même processus. Et c'est ce que j'ai appelé un peu la logistique du chaos, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois dit, finalement, le camp de Moria nous permet de ne pas regarder la réalité en face. La réalité migratoire, elle est globale, elle est assez complexe. Les raisons pour lesquelles les personnes migrent sont complexes, où ils décident d'aller pareil. Et là, en fait, on décide que la situation, c'est... Voilà, on va construire un camp, on va peut-être rajouter un autre camp après l'incendie. Donc on a construit en catastrophe un camp, cette fois-ci fermé, pour les personnes sur Lesbos. Et donc je voulais finir sur le dernier point qui est le... On peut discuter, c'est un peu l'idée donc de essayer de parler de bilan. Même par rapport aux critères que s'étaient eux-mêmes fixés les institutions européennes à Tampere, on voit bien qu'il y a malgré tout des arrivées irrégulières et clairement une situation qui n'est pas une bonne gestion, comme c'est le mot qu'on utilise, hein, le management en anglais, hein, la gestion des flux migratoires. Si on considère la situation de Moria, dire que c'est une bonne gestion, même en étant extrêmement complaisant, ce serait difficile à dire. Et la réponse, ce qui est intéressant c'est à voir, c'est justement quelle est la réponse. Donc là, hein, il y a le 23 septembre, c'est-à-dire hein, il y a un petit peu plus d'un mois, de la Commission européenne. Elle publie plusieurs centaines de pages. Quand je dis plusieurs centaines, on est à plus de 500 pages, hein, largement. Des centaines de pages, où il y a d'abord une longue communication de la Commission. Après, il y a des propositions de révision de beaucoup de directives qui sont adoptées depuis justement 2000. Il y a un très long vade mecum qui est pour expliquer aux fonctionnaires européens comment est-ce qu'il faut qu'ils répondent si les médias ou des gens comme moi ou vous leur posent des questions. Il y a aussi une liste, donc ça c'est vraiment la... Il y a aussi une liste d'ailleurs de questions-réponses spécifiques pour les médias. Il y a un tableau de bord de 4 pages, avec 4 pages qui listent tout ce qui doit être fait dans les mois et les années à venir. Donc ça prend un certain temps d'essayer de comprendre ce pacte que vous pouvez, qui est, j'ai envie de dire, accessible au public. Encore faut-il essayer de comprendre tout le jargon qui est employé. Et la réponse, et je pense que le mot qui me revient, c'est la première réponse, c'est... C'est pour ça que j'ai employé ce mot de logistique, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc on va essayer de trouver quelque chose d'encore plus compliqué, qui de toute façon ne fonctionnera pas, mais qui donnera quand même l'impression qu'on est en train de qu'on est capable de proposer quelque chose. Un seul exemple, parce que je n'ai plus de temps, je reviens sur Lesbos. Donc, a été identifié par la Commission le problème suivant, il n'y a pas assez d'États membres qui veulent bien accepter des personnes qui sont actuellement sur Lesbos, qui sont éligibles pour le droit d'asile, et donc qui pourraient être accueillies dans un autre État membre. Depuis 2015, il est clair qu'un certain nombre de pays dits du groupe de Visegrad, mais en fait, ils sont beaucoup plus nombreux que ça, il y a aussi l'Autriche, parfois les Pays-Bas, parfois... refuse de participer à un système de répartition des demandeurs d'asile. La Pologne et la Hongrie ont été d'ailleurs condamnées par la Cour européenne au printemps 2020. Et donc la Commission dit, alors, s'ils ne veulent pas accueillir des demandeurs d'asile, on va faire un système où ils pourront, à la place, participer en finançant la reconduite à la frontière des personnes sur Lesbos qui n'auront pas l'asile. Si un pays accepte un demandeur d'asile, il aura 10 000 euros. C'est le prix apparemment de la demande d'asile. S'il ne veut pas, il financera la procédure de reconduite à la frontière, qui peut coûter très cher, mais ça, ce n'est pas écrit dans les textes. Si, au bout d'un certain temps, la personne n'est toujours pas reconduite dans son pays, cette personne sera transférée depuis la Grèce ou l'Italie, enfin, vers le pays en question. Donc, ces pays en question, on parle de la Hongrie et la Pologne. Donc, c'est vraiment une situation, on va dire... Alors, au lieu de rester à Lesbos, vous pourrez... La Hongrie va dire qu'elle finance votre conduite, et sinon, elle est censée vous prendre au bout de 18 mois plus tard. Alors, les procédures sont censées être plus rapides. N'importe quelle personne se dit, mais pourquoi la Hongrie accepterait ce système pour... Elle veut payer pour rien, de toute façon, même pas pour la reconduite. On est censé lui dire, ben là, vous voulez du contrôle, là, on propose non pas d'accueillir, mais de reconduire. Mais pourquoi la Hongrie voudrait accueillir, même dans un centre fermé, des personnes qui sont censées être expulsées? Donc, quand je parle de logistique, c'est-à-dire qu'on a toutes sortes de procédures qui sont décrites dans ces centaines de pages, où on voit bien qu'elles ne peuvent pas apporter une solution. Donc, je conclue, parce que j'ai été un petit peu trop longue, et peut-être pour nous, justement, pour... vous dire un petit peu mon sentiment. Donc ça fait 20 ans maintenant, enfin un peu plus de 20 ans, parce que c'était même avant le sommet de Tampere que je travaille sur ces questions. Il y a de plus en plus, je pense vraiment, un éloignement entre la réalité que l'on voit dans les textes européens, dans les prises de parole, que ça soit des institutions, mais aussi des think tanks, de tous les gens qui gravitent un peu dans ces sphères-là. Et la discussion beaucoup plus globale et pas seulement académique sur les questions migratoires. Cette année, l'année du Covid, les gens sont rentrés chez eux. Il n'y a pas eu d'invasion de l'Europe, mais il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont dû quitter les pays du Golfe et se sont retrouvées dans des situations assez compliquées d'ailleurs, en Inde, au Bangladesh ou ailleurs. Il y a même eu des Vénézuéliens qui ont quitté la Colombie pour rentrer chez eux, où après on les a traités de bioterroristes et d'apporter le Covid. Donc c'est plutôt un pays, vraiment l'année où on se dit la question de l'invasion migratoire n'est vraiment pas à l'agenda. C'est aussi l'année où on a vu en Europe toute la problématique des travailleurs saisonniers et des immigrants utiles. Alors en France, D'abord, on a demandé aux enseignants d'aller ramasser les fraises, mais finalement, à l'automne, on a demandé en fait, à des travailleurs saisonniers du Maghreb de ramasser les clémentines. En Allemagne, c'était les asperges et les houblons, où c'est essentiellement des travailleurs de pays européens comme la Roumanie, mais aussi de plus à l'est qui sont venus. Donc, on a l'impression d'un décalage, mais il faut bien comprendre cet engrenage avec, évidemment, la bureaucratie européenne et les ministres de l'Intérieur, mais aussi tous les acteurs de ce secteur de politique publique qui profitent, en fait, de cette vision qu'on appelle parfois sécuritaire, mais surtout, moi, que j'appellerais de système d'écluse ou de contrôle à distance des migrations. Et je m'arrêterai là, parce que j'étais un peu longue, mais je vous remercie de votre attention.